autre homme noir a été tué par la police.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, on fait le point de l'actualité sportive à travers le monde. Élisée Rumpati devant ce micro. On va parler ce soir de la reprise du championnat en Espagne. Après la Bundesliga, c'est au tour de la Liga de reprendre service dans les cinq majeurs d'Europe. En Afrique, la CAF a elle aussi décidé de revoir le calendrier de ses compétitions. Et puis, Lamine Diack a nié avoir perçu de l'argent pour retarder les tests antidopage contre les athlètes russes. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Amédine Sy, en direct de Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver une fois de plus.
Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuro. Lawal, bonsoir.
Élisée, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Suspendue depuis mars pour cause de Covid-19, la Liga espagnole a fait son grand retour. Alors, Amine Birouk, le foot reprend vie en Europe, mais en Afrique, on est dans l'expectative.
Tout à fait, Lézé, le football est en train de reprendre du poil de la bête en Europe avec les retours de la Bundesliga, de la Liga, de la Serie A, celui programmé de la Première Ligue anglaise. Mais en Afrique, on est un peu plus dans l'expectative. Il y a tout de même quelques signes encourageants avec le retour aux entraînements des clubs tunisiens, la décision de l'Afrique du Sud également de pousser les clubs à reprendre la compétition de façon échelonnée, programmée. Au Maroc, on attend dans la mesure du possible le feu vert des autorités gouvernementales, les autorités sanitaires en particulier, pour que les choses puissent reprendre progressivement par paliers. Donc il n'y a pas évidemment la même visibilité que sur le vieux continent. Mais il y a tout de même quelques signes encourageants qui vont pousser quand même à voir les principaux championnats se conclure. Maintenant, il y a également le calendrier des compétitions africaines qui a été fixé au mois de septembre. C'est là où se disputeront les demi-finales et possiblement la finale au mois d'octobre. Ça poussera à revoir le calendrier, à le remanier, mais ce sera tout de même un moindre mal.
Lawal Dine Kosuro, le foot aussi a repris en Italie avec une bonne formule, la coupe avant le championnat.
Oui, c'est heureux pour les tifosi de retrouver le ballon rond, même si ce n'est pas dans les stades, mais à la télé, c'est déjà important. Le foot a repris et c'est au grand bonheur de tous les amateurs de la Serie A, de la Coupe d'Italie, du foot européen de façon globale, puisque avant l'Italie, c'est en Espagne que ça a démarré, en Allemagne entre-temps, et les Français doivent nourrir des regrets aujourd'hui pour avoir très tôt suspendu leur championnat.
Alors, Amédine Sy, la mayonnaise allemande a senti le prix?
Tout à fait, Élisée. Après la Bundesliga et le championnat portugais, c'est une bonne nouvelle, hein, il faut le dire, pour les amateurs du sport roi. Mais Élisée, les choses ne se passent plus comme avant, car il y a eu beaucoup de changements. Non seulement les matchs vont se jouer à huis clos, mais comme vous le savez, les joueurs n'ont plus le droit quand même de fêter ensemble les buts, ce qui est vraiment dommage, car le football, c'est quoi? C'est l'émotion, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc il y a eu beaucoup de changements qui vont dénaturer un peu quand même le football. Mais comme le dit l'adage, quand on n'a pas ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Élisée.
Valdo, au regard des reprises annoncées en Europe, la France ne s'est-elle pas précipitée dans sa décision d'arrêter son championnat?
Élisée, ce qui devient une évidence aujourd'hui, la Ligue de football professionnel est allée vite en besogne avec cette décision d'arrêter les championnats. Et ce, malgré la vitesse de la propension de la pandémie qui a certes précipité les choses. Mais je pense qu'un regard vers d'autres pays devait beaucoup servir et ne devait surtout pas précipiter une telle décision quand on sait que d'une autre part, l'UEFA n'avait pas encore annulé la Ligue de champions, compétition à laquelle deux clubs français sont encore partie prenante, à savoir le Paris Saint-Germain et Lyon. Lyon, classé 7e au niveau niveau de la Ligue 1 est privé de la prochaine Ligue des Champions d'Europe, ce qui pousse son président à fustiger la fameuse décision d'arrêt du championnat avec des attaques en justice. Aujourd'hui, la Ligue 1 saison 2020-2021 est en passe de se jouer à 22 clubs puisque Amiens et Toulouse ont été repêchés par les conseils d'État avec toutes les conséquences que cela pourra entraîner. Décision qui est loin de faire l'unanimité au niveau de la Ligue qui évoque la convention avec la Fédération française de football de ne jouer qu'avec tout au plus 20 clubs. Bref, les moments n'étaient pas encore propices de prendre une telle décision quand bien même que la Covid-19 était en train de gagner du terrain.
L'UEFA a même profité en revoyant son calendrier pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Tout reprend en août. Amine, n'est-ce pas trop tôt ?
Tout reprend au mois d'août, oui, mais il faut juste rappeler que certaines équipes ont repris l'entraînement au mois de mai et qu'elles arriveront à pleine bourre au moment de décider les compétitions européennes, que ce soit l'Europa League et surtout la Champions League. Le fait aussi de centraliser les quarts de finale, les demi-finales et la finale à match unique dans une seule et même ville est une alternative qui devrait peut-être donner des idées aux dirigeants du football africain pour conclure de façon plus expéditive, peut-être de manière plus originale aussi, la Champions League et la Coupe de la CAF. Choisir un pays qui n'est pas exposé ou qui est moins exposé au Covid, avec des conditions sanitaires plus strictes et évidemment plus efficaces, ça pourrait être une solution. L'essentiel, c'est que les clubs ont suffisamment maintenant de joueurs, que la FIFA a permis ces 5 changements en 3 périodes qui permettent également d'avoir moins de blessures et moins de problèmes musculaires. Mais il faudrait aussi se fier aux avis des experts, médecins, préparateurs physiques, nutritionnistes, pour avoir le moins de casse possible. Mais évidemment, le football reprend, la Champions League européenne va reprendre et ce sera certainement une formule originale pour cette année 2020.
Merci Amine. Alors, l'AOAL a parti des quarts de finale, plus de matchs aller et retour. La formule est-elle bonne ?
En tout cas, ça va décevoir un peu les supporters des différents clubs européens, au-delà de l'Europe, des supporters de ces clubs-là, en Afrique aussi, oui. Parce que les matchs couperaient, c'est trop compliqué, on ne retrouve pas la joie du foot. On se dit, un match aller, d'accord, on peut ne pas bien faire les choses ici, et au match retour, remonter la pente. Rappelez-vous, la demi-finale entre le Barça et Liverpool, 3-0 à l'aller, mais Liverpool a remonté la pente.
La pente, ouais.
Il y a des exemples comme ça, les remontadas, ça arrive. Donc c'est ça qui fait le secret du foot, c'est ça qui fait la joie du foot, c'est ça qui fait le charme, voilà, du football, les matchs aller-retour. Maintenant, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Voilà.
On va vivre ça cette année comme ça, parce qu'il faut aller vite pour rattraper le début de la saison 2021-2022.
Ça doit prendre fin en août et reprendre en même temps en septembre.
Donc oui, il faut rattraper le temps perdu. C'est dans cette optique que ça a été fait. Ça va nous décevoir un peu, nous autres supporters à travers le monde, mais on est obligé de vivre ça, parce que déjà dans les grandes compétitions, dans les coupes, c'est comme ça, on voit les matchs, les quarts de finale, c'est à élimination directe. Si en Ligue des Champions à cette situation exceptionnelle, on trouve cette mesure exceptionnelle, je crois que on doit pouvoir le comprendre et l'accepter.
On revient à vous, Amine. En Afrique, la CAF se met dans la dynamique de revoir son calendrier.
Tout à fait, on se met dans une dynamique positive. Il y a une réunion de la commission des compétitions africaines, la commission interclub, présidée par Constant Omari. Il y avait une ébauche de solutions avec 2 plans possibles. Le fait d'avoir choisi le plan le moins risqué, c'est-à-dire disputer les compétitions au mois de septembre, me paraît une idée plutôt judicieux, ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité, prendre un peu moins de risques et savoir où en sera la situation pandémique, sanitaire sur notre continent avant de décider des dates. Le fait d'avoir choisi septembre, c'est l'option sécurité. On pourrait opter pour centraliser les compétitions dans une ville ou dans un pays. Ce serait une solution aussi ou une alternative à ce calendrier choisi par la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, il va falloir maintenant réinstaller les matchs d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique, théoriquement 2021, voir s'il n'y a pas lieu de repousser l'organisation de la compétition à l'année 2022, début de l'année 2022, et surtout ne pas priver le Cameroun du privilège d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a déjà eu l'antécédent de 2019, ce serait trop gros d'enlever au Cameroun la possibilité d'organiser cette grande messe du football africain.
Lawal, visiblement, la CAF ne souhaite pas annuler les compétitions interclubs de cette saison.
Elle n'a pas intérêt à les annuler, parce qu'il faut voir un peu la manne financière que cela représente.
Tout se repose sur ça, d'ailleurs.
Voilà la manne financière que ça représente, et personne n'est assez fou pour perdre de l'argent. Voilà. Les sponsors sont là, et les sponsors vont forcément, quand ça va reprendre, continuer par faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, et c'est un bonus pour la CAF, et ce sera également bien pour les clubs, parce que, souvenez-vous, les redevances pour les clubs, on en a vu qui ont reçu dernièrement et qui ont été très heureux de ce qui est reçu. Les joueurs ont été payés par endroit parce que entre-temps c'était
le Bénin
notamment. Oui. Les joueurs sont aujourd'hui très heureux. J'en ai appelé un la dernière fois qui m'a dit qu'il est très content parce que maintenant il peut vivre comme il l'espérait. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc ça va être bénéfique pour chacun des acteurs du foot africain. Reprendre les compétitions africaines des clubs, je crois que c'est l'idéal pour la CAF pour permettre au club de mieux se porter et aux joueurs également de bénéficier de ce dont ils ont aujourd'hui la charge comme profession, parce que sans jouer, on ne peut pas espérer grand-chose.
Ahmedine, la CAF semble s'aligner sur les décisions de l'UEFA.
C'est normal, je pense que la CAF n'a plus de choix, elle doit impérativement revoir son calendrier. Il faut le dire, hein, son calendrier est devenu un casse-tête chinois depuis l'interruption de la saison à cause de la pandémie. Mais il faut voir que la CAF aussi doit s'adapter. Hein. La CAF ne doit pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut s'aligner avec l'UEFA, mais ne pas faire n'importe quoi, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, hein, puisque on est en Afrique, et vous savez qu'en Afrique, il se passe beaucoup de choses, surtout durant la période de pluie. Mais au niveau de la CAF, on doit réfléchir, bien réfléchir, pour pouvoir quand même continuer ces compétitions, car elles sont nombreuses, hein. Il y a le CHAN, il y a la Ligue africaine des champions, la Coupe de la CAF, mais également la Coupe d'Afrique à venir. Donc au niveau des responsables de la CAF, il faut s'asseoir autour d'une table, bien réfléchir pour défendre les intérêts du continent et prendre la décision, car il faut essayer de sauver ce qui peut l'être.
Valdo, tout se jouera à partir de septembre, éliminatoire et autres. N'est-ce pas précipité?
Élisée, précipité, je ne pense pas. Il y a 60 jours pour observer davantage l'évolution de la pandémie. Et s'il ne faut compter que les mois de juillet et les mois d'août, en attendant à fin juin et à l'allure où vont les choses, je pense qu'il y a mieux à espérer pendant les mois de septembre. Élisée, je pense que tout peut dépendre de l'atmosphère psychologique qui va renvoyer le retour du championnat européen. S'il y a bonne évolution sur le continent pendant cette période, l'on pourrait également se dire que c'est possible de courir une fois de plus derrière les ballons dans différents terrains de football, quoique l'évolution de la pandémie en Afrique est loin d'apaiser les spécialistes de la santé qui, jusqu'à preuve du contraire, craignent toujours les pires. D'ici septembre, il y aura certainement une nette évolution sur la perception de cette pandémie et ses conséquences, d'où cette projection de la Confédération africaine de football d'espérer à un retour de ses compétitions en cette période.
Avec vous, Valdo. À Kinshasa, la Nina Foot a pris la décision d'effacer toutes les dettes des clubs. Comment en est-on arrivé là?
Élisée, en temps normal, la situation financière est déjà compliquée pour certains clubs qui participent à la Ligue 1 et la Ligue 2. Conscient de cette réalité, la Nina Foot a décidé d'effacer les dettes de ses sociétaires. Ils font entendre par là les amendes et frais des participations, avec comme raison principale la pandémie qui frappe l'économie mondiale. Une situation qui vient soulager tant soit peu les finances de certains clubs. Question de leur permettre cette fois de se mettre en ordre avant l'entame de la prochaine saison sportive, qui risque de peser énormément à cause de cet arrêt des activités, sachant qu'en RDC, la plupart des clubs sont tenus par des individus et non des organisations, et ces individus-là ne sortiront sans nul doute pas indemnes de l'impact économique dû au Covid-19 d'une part, et de l'autre, vous aurez certainement compris que l'organisateur du championnat de la RDC laisse participer à ces compétitions certains clubs sans que ces derniers n'aient payé les frais des participations, ce qui laisse entendre que si d'une part, tous ces clubs peuvent se retrouver avec des amendes de la saison sportive 2019-2020 effacées, il n'en est rien s'agissant des frais de participation qui varient entre 7 500 $ pour les clubs sponsorisés et 5 000 $ pour les clubs non sponsorisés en Ligue 1. Mesure qui ne profite qu'aux clubs ayant bénéficié de la largesse de la ligne à foot.
À Medine Si, à Dakar, la reprise prévue pour novembre par la fédération semble se préciser pour septembre. Que se passe-t-il?
C'est vrai, Élisée, la reprise des compétitions de la Ligue 1 et 2 sénégalaise qui était prévue au mois de novembre va certainement changer car les responsables du football sénégalais pensent qu'avec l'assouplissement des mesures par le gouvernement, les choses ont changé et le football peut reprendre ses droits puisque maintenant le couvre-feu a été revu et les transports aussi peuvent circuler. Maintenant, il faut voir comment faire pour qu'en sorte que les sportifs puissent dérouler leur compétition. Normalement, ce ne sera pas chose aisée puisque, comme dans tous les autres pays, les matchs vont certainement se jouer à huis clos, mais il faut aussi penser à la santé des joueurs. Je pense que Augustin Senghor est assez responsable et au niveau de la commission médicale, on va tout étudier pour pouvoir reprendre au mois de septembre. Ça fera encore 3 mois. D'ici là, beaucoup de choses peuvent bouger, Élisée.
Vous écoutez Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voie de l'Amérique. On termine cette émission par l'athlétisme avec le procès de Lamine Diack. Des aveux et des démentis pour l'ancien patron de l'athlétisme mondial aujourd'hui jugé à Paris pour corruption. Il reconnaît avoir retardé des sanctions contre des athlètes russes dopés en échange de contrats de sponsoring et il se justifie en disant qu'il a fait pour sauver les finances de la fédération. Le Sénégalais a cependant nié avoir touché de l'argent en échange. On écoute Abdou Latif Diop, journaliste sénégalais basé à Paris et qui couvre actuellement le procès.
Monsieur Dolé a comparu déjà et il a répondu à Sarge contre son ancien patron Lamine Diack. Et cela n'est pas le cas cependant pour Habib Cissé qui a déchargé le président Diack sur plusieurs chefs d'accusation. Alors notamment la corruption passive présumée. Cependant son audition a mouillé quand même son fils Massete Diack. Massete Diack, je le rappelle, c'est le conseiller marketing de l'IAF à l'époque des faits, mais fils de Lamine Diack également, l'avocat de Lamine Diack, Maître Cissé, qui était son avocat en même temps, aussi avoue avoir négocié de l'argent pour les Russes, mais sous les ordres de Diack fils, Massete Diack, qui lui avait demandé de négocier de l'argent et qui est inculpé d'être le trait d'union entre la Fédération russe et certains officiels de l'IAF.
Amédine, charge et décharge à l'endroit du président. Lamine Diack, peut-il s'en sortir?
Je ne saurais pas répondre à cette question, Élisée, mais en tout cas, c'est un offre de soulagement pour lui puisqu'il attend ce procès depuis 5 ans. Hein, parce que durant 5 ans, Lamine Diack a été en résidence surveillée à Paris. Pour une personne âgée comme lui, il a 87 ans. Hein, il a fêté son anniversaire 48 heures avant le début de ce procès. Il a même dit qu'il a passé 5 ramadans au niveau de la résidence surveillée, 5 fêtes de tabaski. C'est très difficile pour lui. Maintenant, le procès est ouvert depuis lundi dernier. On va voir, peut-être que la vérité finira par se savoir, mais il faut reconnaître qu'il y a des accusations très graves hein, qui pèsent sur lui. Mais c'est dommage, hein, c'est dommage puisque un dirigeant comme Lamine Diack, avec tout ce qu'il a fait pour l'athlétisme mondial, alors qu'au même moment, on voit des responsables du football comme Blatter, comme Michel Platini, qui a reconnu avoir pris 1 800 000 €. Ils se pavanent au niveau de l'Europe sans rien. Mais on va voir ce que cela va donner puisque le procès se poursuit actuellement à Paris.
Valdo, un scandale de plus dans le monde du sport. Est-ce à dire que la mafia est partout?
Élisée, la mafia dans le sport est sans frontières. Rien n'est parfait aujourd'hui. Certes, nous avons tendance à croire que les choses se décident sans influence extérieure. Mais il n'en est rien de tout ça. Il y a toujours quelque chose qui vient influencer un choix, une désignation d'une compétition, voire même au niveau des tirages au sort, au niveau des interclubs. Autant les politiques cherchent à avoir une certaine ascendance sur les autres, il en est de même dans les secteurs du sport, car naturellement les humains sont en concurrence. Autant nous condamnons les actes posés par l'ancien patron de l'athlétisme mondial sur les révélations du dopage des athlètes russes, autant nous nous posons la question de savoir qu'en est-il des révélations sur un possible dopage des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98, Parlant de cette Coupe du Monde 98, je me suis toujours posé la question de savoir si la désignation de la France comme pays hôte n'était pas faite à dessein. Question de relancer cette nation sur la scène internationale, elle qui a brillé par son absence en 90 et 94. La mafia dans les sports, c'est aussi cette affaire des paris organisés. Rappelez-vous de la Juventus de Turin qui a été reléguée en division inférieure et privée de Scudetto. Que dire alors de l'affaire Blatter et Platini au sein de la FIFA et de l'UEFA? Bref, la mafia dans le sport est devenue un élément bien plus que présent dans tous les secteurs.
Lawal Dine Kosourou, décidément, on aura tout vu et entendu. Le sport et ses révélations.
Le sport et ses révélations, ça pourrait être le titre d'un ouvrage. Je pense que le monde du sport tel qu'il fonctionne ne peut pas ne pas être corrompu jusqu'à ce niveau, ne peut ne pas être assujetti à la mafia. Parce que, rappelez-vous, quand on parle de l'attribution de la Coupe du Monde Qatar 2022, on a entendu dire qu'il y a eu des dessous de table, il y a eu des ci et des ça, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Platini n'est plus au niveau de l'UEFA, Blatter et tout voilà. Tanti ont eu des difficultés. Quand on va au niveau donc de l'athlétisme, on trouve aujourd'hui qu'il y a des choses. Donc, de révélation à révélation. Et quand on suit un peu le procès, on se rend compte que il y a l'un des collaborateurs de Lamine Diack qui l'a chargé, l'autre l'a déchargé au cours du procès. Donc, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, on ne pourra pas le savoir. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse assainir la maison du sport au plan mondial parce que tant qu'on entendra parler de ces scandales de corruption, scandales de dopage et tout le reste, le sport n'aura plus toute son assurance. Alors qu'on dit on va au sport pour le bon, pour le bien et pour le bien-être. Mais si aujourd'hui, dans le bien-être, on commence pas à se dribbler, on commence pas à tricher en sport, ça va pas être bien. Alors on laisse où la marque du fair play. Le sport, c'est ça. On vient s'amuser, c'est vrai, on gagne de l'argent, on gagne tout ce qu'on doit gagner, mais il est important que l'on évite d'aller jusqu'à cet extrême. Maintenant, au-delà de tout, qu'est-ce qui pousse les athlètes à aller au dopage? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser.
Surtout ça.
Qu'est-ce qui les pousse à aller au dopage? Quand on entend les Ben Johnson, quand on entend un certain nombre d'athlètes dopés entre-temps, suspendus, revenu,
même à Safa Powell tout récemment.
Oui, voilà. Donc, mais il y en a qui quand même ont fait le métier sans tricherie. Quand je prends le Jamaïcain Usain Bolt, je n'ai jamais entendu parler de dopage à son niveau. Quand je prends d'autres encore, Michael Jordan, il a fait la joie du basket.
Michael Johnson.
Jordan pour le basket, Michael Johnson pour l'athlétisme. Aucun d'eux n'a été soupçonné de dopage. Et si eux-là ont pu le faire, pourquoi pas les autres? Donc, qu'est-ce qui les pousse? Est-ce que c'est pour sublimer ces performances qu'on le fait? Je crois que le procès nous permettra de le comprendre.
Ahmedine Sy, qu'en est-il réellement de ce financement de la Russie dans la campagne électorale de l'opposition sénégalaise en 2012?
Il faut dire que concernant le financement de la campagne électorale des élections au Sénégal, là, Lamine Diack a nié les faits. Hein. Il a complètement démenti. Il dit qu'il n'a jamais touché de l'argent des Russes pour financer une campagne électorale au niveau du Sénégal. Mais ce sera sa parole contre la parole de ses accusateurs. Peut-être que durant le procès, les choses vont s'éclaircir. En tout cas, sur ce point, il a été très clair. Mais comme c'est la politique et c'est un procès sur le plan sportif et politique en même temps, il va se défendre et il se défend avec les armes qu'il a, mais ce sera pas facile pour lui. Je pense que ce sera extrêmement difficile. Mais attendons de voir. Je pense que ce sera le bout du tunnel pour Lamine Diack.
Amin Birouko, le sport peut-il être mêlé à la politique?
Sport et politique, Élysée, ça existe depuis 1936, depuis les JO de Berlin. Donc il n'y a pas lieu d'être utopique et de se dire que ce sont deux mondes distincts. Non. Il y a tellement d'enjeux politiques dans le sport qu'il n'y a pas lieu de ne pas évoquer, par exemple, les boycotts des JO de Moscou de 80 ou de 84 au moment de la guerre froide. Aujourd'hui, il y a cette affaire et ce procès de Lamine Diack. Accordons-lui au minimum la présomption d'innocence. On l'a écouté à la barre lors de sa première audition et il a semblé tout simplement vouloir défendre les intérêts mercantiles du sport. Et aujourd'hui, le sport, c'est du business, c'est aussi de la politique et on ne peut pas dissocier ces deux éléments par rapport à la performance sportive. L'athlétisme en est sorti terni. World Athletics essaie aujourd'hui de réparer cette image, mais pourra-t-elle tenir le coup face aux pressions médiatiques? qui pousse au dopage, qui pousse à la performance, parce que les enjeux financiers sont importants, une performance souvent artificielle, où les athlètes ne sont pas totalement propres. Espérons qu'on aura les athlètes plus propres après ce coup de balai et que ce procès servira d'antécédent pour la suite, pour d'autres disciplines sportives. On peut évoquer le football, le cyclisme, le basket, toutes ces disciplines qui fonctionnent à des cadences infernales et qui sont sous le dictat ou le joug des grands annonceurs et des grands sponsors.
Merci Amine Birouk. Je rappelle que vous intervenez depuis Casablanca au Maroc. Merci aussi à Valdo Simbo Yamba Yamba de Kinshasa en RDC, également à Medine Si depuis Columbus dans l'Ohio et enfin dans ce studio, Lawal Din Kosuro. Merci Lawal.
Merci Élisée.
On vous dit à lundi prochain et bonne écoute des programmes de la VOA Afrique. Tout de suite, un nouveau journal. Au revoir.